Alors, bonjour Jean-Louis Denoît, qui nous fait, disons, l'honneur de nous accueillir dans son domaine pour nous parler un petit peu de ses vins, bien sûr. Mais aussi, ce que j'aimerais qu'il nous dise, c'est qu'il décrive un petit peu son itinéraire professionnel, qui est un itinéraire qui est, je pense, fort original et fort riche. Voilà. Donc, on souhaite qu'il s'exprime là-dessus d'abord, et après on parlera un petit peu de l'aspect technique du vigneron lui-même, c'est-à-dire de la fabrication des vins, etc., et de la palette qu'il nous proposera. Donc, Jean-Louis, vous avez la parole.
Alors moi, je suis d'origine champenoise, donc d'une famille de au moins 6 générations de vignerons, autant qu'on puisse retrouver les traces. Et je me suis émigré en Languedoc dans les années 80, fin 80, dans le but d'y chercher des chardonnays dont j'avais entendu parler pour faire des vins mousseux, donc des vins effervescents. Et puis j'ai eu l'occasion de découvrir et d'acheter des vignes dont j'ai récupéré les récoltes pour la production de vins effervescents. Et on s'est aperçu au bout de 3-4 ans des potentiels de ces chardonnays pour des vins tranquilles dans un style plus bourguignon. J'ai également fait mes études en Bourgogne, donc j'ai un petit peu les deux pieds dans ces régions du Nord-Est qui sont spécialisées en Pinot et en Chardonnay, aussi bien pour les bulles que pour les vins tranquilles. Dans les années 90, j'ai arrêté l'activité de vin mousseux qui était établie à côté de la Champagne, dans l'Aisne, pour me consacrer uniquement au domaine qu'on a baptisé donc le domaine de l'Aigle.
Pourquoi l'Aigle ?
Pour une parcelle qui s'appelait Cabane de l'Aigle, donc qui était synonyme assez parlant d'altitude. Puisque le secret d'adaptation de ces cépages ici, c'est évidemment le climat, l'altitude qui nous permet d'avoir des printemps plus tardifs et de récolter en principe 4-5 semaines plus tard pour le même cépage que sur le littoral, qu'à Montpellier ou Béziers. Donc ça nous permet d'avoir des chardonnays ou des pinots noirs qui vont mûrir jusqu'à la fin septembre, et avec des degrés plus limités et des acidités supérieures à ce qu'on obtiendra dans le reste du Languedoc. Alors ici, on est effectivement à l'extrême sud-ouest du Languedoc-Roussillon, donc plus frais de par cette influence océanique, et plus frais grâce à l'altitude. On est à environ 400 mètres d'altitude.
Ça a été un petit peu votre choix au départ.
Ça a été complètement un choix. On a d'ailleurs éliminé sur les achats de domaines qu'on avait fait de parcelles tous les autres cépages, les mosaques et puis cépages traditionnels, donc de la blanquette, qui est le principal cépage à Limoux. Il y avait même encore un peu des carignans, des choses comme ça, donc qui dataient d'une époque où les vignerons livraient des raisins, des vins probablement très acides, qui étaient destinés à des assemblages avec des vins d'Algérie. Voilà, pour se spécialiser sur ces deux cépages, bourguignon, champenois, le pinot noir et le chardonnay. Alors ça a donné lieu à des vins tranquilles, donc élevés en fût, dans des styles bourguignons, mais également des vins mousseux dans des styles champenois. Alors rapidement, j'ai introduit du pinot noir par surgreffage, parce que quand on est pressé, on ne peut pas attendre 4-5 ans, et qu'on ne veut pas attendre 4-5 ans les résultats des plantations, on surgreffe sur une vieille vigne, et en un an, on obtient des raisins du cépage surgreffé. Donc rapidement, on a eu des articles de presse et une certaine reconnaissance à partir des 85-88. Donc tout ça, c'était avant les chardonnays de Limoux, les toques et clochers, les choses comme ça. Donc qui sont une opération montée par la COP de Limoux et qui sont apparues après, dans les années fin 90-2000.
Donc vous avez été un petit peu précurseur alors.
Sur le pinot noir complètement, oui, c'est ce qui a été dit écrit. Il n'y avait pas d'autres pinots noirs en rouge. Et dans les bulles également, puisque de toute façon c'était interdit de mettre du pinot noir dans les créments. ça l'a été encore assez longtemps. Puis il y a eu 10% d'autorisés. Les locaux me traitaient de bandit parce que je mettais du pinot noir. Mais je constate que petit à petit, ils en ont demandé et obtenu l'autorisation jusqu'à 40% d'encrément. Alors aujourd'hui, je reste quand même le seul qui a des taux de pinot noir élevés de l'ordre de 40-50% dans mes créments. Et pour tout dire, c'est le secret du champagne, puisque la champagne est issue de, pour deux tiers de pinot noir et pinot meunier, un cousin. Et si on retire de la partie chardonnay, donc qui représente un tiers, un bon 10-15% pour les blancs de blanc, c'est-à-dire les vins essentiellement issus de chardonnay, il nous reste 80% de raisin noir. Donc on peut dire que le secret du champagne, plus que son climat, c'est les 80% de raisin noir, ce qui donne cette puissance, ce volume au champagne et ce style. Bon, il y a beaucoup de producteurs de créments qui n'ont pas ou qui n'avaient pas, ou toujours maintenant, pas bien compris ça. Et c'est évidemment ça qui donne le style de nos effervescents.
Donc votre production se répartit entre vin effervescent et vin tranquille.
Tout à fait.
Et dans quel pourcentage ?
Bon, ça dépend des années, mais ce qui est assez pratique, parce que quand on a des vins jeunes ou des choses à plus gros rendement, c'est évidemment destiné plutôt à des effervescents. Si on a des vieilles vignes ou des choses très mûres, on va utiliser pour des vins tranquilles, notamment des chardonnays ou des pinots noirs, qui vont faire des vins plus concentrés. On va reproduire ainsi la différence climatique qu'il y a entre la Champagne et la Bourgogne de 300 km et probablement de 2 degrés en moyenne. Donc il va nous définir des styles de vins différents.
Donc une bonne partie de votre itinéraire a été quand même de transporter ici des cépages, une façon d'élever le vin qui provenait de vos origines à vous, géographiques si j'ose dire.
La plupart des progrès en Languedoc-Roussillon depuis les années 80 ont été faits effectivement par des gens venus d'ailleurs qui ont apporté des nouvelles idées. Beaucoup de Bourguignons, des Bordelais, mais aussi quelques Belges, Luxembourgeois, des Allemands qui ont un peu ouvert des portes, quoi. C'est vrai que c'est ça qui génère des idées nouvelles et les gens sont... d'ici, surtout à Limoux, sont quand même assez traditionnels et restaient sur leur production du passé.
Oui. Et l'intégration, justement, avec les gens du coin, est-ce qu'elle a été facile ou un peu plus difficile ?
Vivant dans un nid d'aigle un peu isolé, j'ai pas vraiment besoin de m'intégrer. Quoi. Mes clients sont pas ici. Et donc, il n'y a pas vraiment... Mais enfin, bon, j'ai rencontré des gens exceptionnels dans la viticulture. Il y a effectivement des domaines et des grandes familles dans cette région très intéressantes. Le problème, c'est plus ce noyau de coopérateurs qui représentent 60-70% de la production et qui évidemment sont des suiveurs et qui demandent surtout à un directeur de leur trouver des solutions faciles pour s'en sortir. Et on n'est pas tout à fait effectivement sur les mêmes longueurs d'onde.
Quand vous êtes arrivé dans la région, vous êtes arrivé avec votre famille, vous étiez donc vous connaissiez personne sur le territoire, donc comment vous êtes approprié votre début, on va dire, d'installation. Vous étiez seul, vous avez rapidement cherché à employer sur place du personnel, ou c'est vraiment au départ, je dirais, une installation familiale?
Non, c'est une installation personnelle, puisque je suis démarré de rien, quoi, pratiquement. Je n'ai pas ramené d'héritage de champagne, contrairement à ce que beaucoup ont pu penser. J'ai fait appel à des banques locales. Et puis des fournisseurs qui viennent d'ailleurs, et puis des clients ailleurs, quoi. Principalement au début sur l'export, quoi. Donc la population locale n'a rien à voir dans ce projet, quoi. On s'est un petit peu, au début, bon, on vendait 70-80% à l'export. On avait trouvé une belle clientèle, une certaine clientèle un petit peu dans le, en Languedoc-Roussillon, dans le sud. Puis lorsqu'on a un petit peu voulu faire du tri, en supprimant, notamment les gens qui payaient mal, il n'en est pas resté beaucoup, quoi. Donc aujourd'hui, la clientèle est surtout sur le nord-est de la France, enfin les périphéries, on va dire, et le nord, et puis toujours l'export, bien sûr, quoi.
Et l'export vers quel pays? Tous les pays?
Aujourd'hui, ça, la France dépasse un petit peu l'export. On récupère beaucoup de nouveaux clients sur des nouveaux cavistes en région parisienne, enfin dans les villes, les grandes villes qui sont intéressées par les vins bio sans sulfite. Bon, des villes comme, typiquement comme Nantes, Toulouse aussi. Mais donc on a moins besoin d'aller voir à l'étranger, quoi. Donc évidemment le Benelux, des pays qui n'ont pas de vignes. Un petit peu de Japon toujours, d'États-Unis, mais on a moins besoin d'aller courir très loin. Et je pense que l'avenir, c'est quand même une clientèle locale et nationale, quoi.
Et vos vignes sont toutes autour de Roctaillade, ou bien est-ce que vous avez diversifié?
Oui, alors avec le fil du temps, j'ai racheté dans des parcelles dans des villages avoisinants, Magri, toujours en altitude. Puis également, plus récemment sur Fa, un fond de vallée tout au sud de Limoux, donc toujours dans la Haute-Vallée. La Haute-Vallée qui est la zone la plus fraîche, Haute-Vallée de l'Aude, de l'appellation Limoux. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'acheter des vignes sur le haut du Val d'Agly. Donc le Val d'Agly, c'est cette vallée qui commence à Rivesaltes avec l'aéroport donc de Perpignan, Maury, et puis qui se termine par les villages de Coudiès-Saint-Paul, qui sont les plus frais du Languedoc-Roussillon, mais un peu moins frais qu'ici quand même, et c'est là qu'on a surtout des Syrahs.
Donc vous
Des
avez quand
Syrahs et
même,
un peu de Grenache.
ouais, vous avez Syrah et Grenache que vous n'avez pas du tout ici alors.
On les vinifie ici, mais Grenache et Syrah, ce serait un petit peu difficile
Oui.
à mûrir ici en Haute-Vallée de l'Aude à 400 mètres d'altitude.
Moi, ce qui m'avait frappé un petit peu quand j'avais regardé votre site, c'est le nombre important de vins différents que vous faites. Que ce soit des effervescents, des tranquilles, des monocépages, des assemblages, etc. Donc une palette très large qui traduit, je pense, votre curiosité vis-à-vis du vin et votre esprit ouvert. Est-ce que je me trompe?
Curiosité puis passion, quand on aime faire du vin,
Non.
on essaie d'allonger un peu la saison. Ça, c'est une constante qu'on retrouve dans le Nouveau Monde, dans lequel j'ai pas mal bourlingué, travaillé, vécu, en Afrique du Sud notamment. Et à l'opposé des vignerons français qui se contentent d'une production traditionnelle, ce que faisait le père, le grand-père, quelquefois deux ou trois vins. Et c'est vrai que le pressoir est ici déballé pendant 3 mois, depuis les premiers pinots noirs ou chardonnays pour des vins effervescents qu'on attaque à la mi-août, jusqu'au dernier Cabernet Sauvignon qui peuvent être décuvés et donc pressés en octobre, voire en novembre. C'est la partie effectivement la plus motivante, la plus intéressante, de faire du vin. Et même en faisant pendant 3 mois, ça ne fait qu'une petite partie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt à proposer une palette large. Commercialement, c'est également plus porteur puisqu'on a des cavistes qui nous prennent rarement toute la gamme, mais plusieurs vins et qui permettent ainsi de compléter des palettes avec des vins différents. C'est un petit peu, toute proportion gardée, comme le théâtre et le cinéma, où dans le cinéma on met en boîte et puis le film est fait pour un an, ou le théâtre où il faut rejouer tous les jours. Donc moi j'essaie de jouer non pas tous les jours, mais enfin au moins pendant 3 mois, de faire des vins au quotidien, pendant tout l'automne.
Donc ça demande quand même, comment dirais-je, un savoir-faire important. Et aussi, je pense que vous avez fait des études d'œnologie, hein, enfin vraiment dans le vin, donc vous possédez toute la palette technique pour élaborer des vins différents.
Oui, puis vous avez parlé de curiosité aussi, surtout, donc beaucoup
Ouais.
goûter, beaucoup voir ce qui se fait ailleurs, avoir les yeux et les papilles ouverts, s'intéresser, visiter d'autres régions, et sans aller dans le Nouveau Monde, il y a tout a plus ou moins été fait, inventé en France, en Italie ou en Espagne. Donc il suffit d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans toutes ces régions viticoles et ça donne des idées, des possibilités qui sont évidemment exploitables dans ce vignoble où on a de la fraîcheur mais où on a aussi du soleil et où on peut pratiquement tout se permettre.
Très bien. Alors, j'avais vu que le domaine de l'Aigle, finalement, ne vous appartient plus.
Alors, j'ai vendu le domaine de l'Aigle, effectivement, en 2000,
oui.
Au bout d'une douzaine d'années, lorsque il était bien connu, parce que ça prenait beaucoup de développement et on avait beaucoup planté. Et on arrivait dans une phase où l'activité prenait une tournure très commerciale. Il fallait beaucoup voyager, beaucoup vendre. Et ça se résume finalement après à un travail de logistique, des palettes qui rentrent pour les fournitures et puis des palettes qui ressortent. J'ai préféré arrêter. Donc, on avait souhaité dans un premier temps s'associer éventuellement à des bourguignons qui ont proposé préféré tout racheter. Et donc j'ai recontinué, je suis reparti sur d'autres vins, sur une gamme plus large, et c'est là où j'ai acheté mes vignes dans l'Oussillon et introduit sur une gamme d'une dizaine de cépages cette fois.
Mais Gérard Bertrand a continué quand même à faire du bon vin. J'espère.
Alors Gérard Bertrand a racheté le domaine de l'Aigle, c'est Bourguignon, 5-6 ans après. Mmh. Bon, ce qu'ils font maintenant c'est très différent, c'est un style beaucoup plus international, beaucoup plus axé sur le bois pour de l'exportation.
D'accord. Donc vous ne revendiquez plus trop le domaine de l'Aigle, en quelque sorte.
Non, pas du tout. Non, ça fait 22 ans, donc c'est une autre vie.
Ouais, il n'y a pas eu une continuité par rapport à ce que vous faisiez.
Les quelques vins que je fais en Chardonnay, en Pinot Noir, mais en 20 ans, on bouge beaucoup dans Languedoc. Moi, j'essaie sans arrêt d'évoluer. Ça fait 3-4 ans que j'essaie de faire un rouge, un Pinot beaucoup plus léger, avec très peu de tanins. Dans un esprit plus bourguignon, presque dans un style des anciens clarets bordelais. Et il y a toujours trop d'alcool, il y a toujours trop de fruits, il y a toujours trop de couleurs. Je pense qu'en 2021, on s'approche du style dont je rêverais et qui évidemment n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 25 ans. C'était des vins tout de même beaucoup plus tanniques et ça bouge beaucoup dans cette région.
Et ce Pinot Noir, c'est celui-là, il est dans quelle partie du domaine, celui que vous voulez faire?
Non, c'est plutôt des histoires de choix, effectivement, des vignobles, mais de choix de date de vendange, vendanger plus tôt, de technique, travailler beaucoup moins les vins, c'est-à-dire beaucoup moins extraire, les toucher moins, on a supprimé les pigeages, donc pour extraire moins. Donc c'est plus au niveau de la technique.
Et au niveau de la technique, quand j'étais venu la dernière fois, où j'avais écouté, même si je ne comprenais pas tout, j'avais remarqué que vous aviez parlé de protection avec des gaz neutres.
Alors on a mis le pied dans les sans sulfites à partir de 2012. J'étais pas trop vin nature. Compte tenu de toutes les horreurs que j'avais goûtées ici et là, dans les salons auxquels je m'intéressais. Et puis, lorsqu'est paru le livre d'un œnologue alsacien qui s'appelle Imélé, Vinifier des grands vins sans sulfite, je me suis penché un petit peu plus sérieusement sur la question. Et effectivement, on se tourne à ce moment-là vers les gaz, puisque le SO2 est un antibactérien et également un antioxydant. Contre l'action de l'air, on utilise des gaz neutres, du gaz carbonique ou bien de l'azote, selon les stades de la vinification. Et pour l'aspect bactériologique, on travaille très proprement. Et puis, on fait beaucoup de contrôles bactériaux, de manière à savoir ce qu'on met en bouteille. Je ne suis pas un intégriste du sans sulfite, c'est-à-dire que si on voit quelque chose, un danger qui vient, on va sulfiter. Et ça fera un vin à bas sulfite, éventuellement. C'est vrai que ça nous a fait beaucoup progresser. Ça a changé également complètement les styles de vin par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans.
Et donc, vous défendez un petit peu cette approche du vin. Moins de sulfite, c'est mieux pour vous.
Tout à fait, mais je ne m'inscris pas du tout dans les vins nature. Je suis un petit peu contre vin nature. Je pense que le destin d'un vin nature qu'on laisserait se faire tout seul, c'est le vinaigre. Et travailler sans sulfite, ça demande beaucoup plus d'hygiène, beaucoup plus de soins, beaucoup plus de connaissances de son vin, donc d'analyse, d'examen microbio. Et je constate encore que beaucoup de producteurs de vin nature ne font pas tout ça et laisse faire effectivement la nature, donc on n'a pas du tout les mêmes pratiques, quoi. On préfère par exemple levurer et mettre une levure connue dont on connaît le résultat que de laisser faire ce qu'on va retrouver sur les raisins de façon purement accidentelle et cyclique, c'est-à-dire qu'une semaine à l'autre les levures ne sont pas les mêmes. Et je préfère également filtrer les vins plutôt que de laisser des lies qui sont des bactéries également inconnues qui vont nous provoquer des évolutions plus ou moins incertaines. Donc là, on n'est pas du tout dans le même registre et même peut-être en opposition avec les gens qui prêchent le laisser-faire.
Et ça me demande donc quand même un travail beaucoup plus fin, quoi, un travail de suivi de l'évolution du vin, qui est un travail de suivi continu, de façon à vraiment adapter votre façon de faire.
Oui, bien sûr, en termes d'hygiène, et bon, j'ai
Oui.
coutume de dire que les sulfites, c'était une façon facile de travailler comme un cochon. Aujourd'hui, on est dans le domaine des sulfites un petit peu comme dans les antibios, c'est quand il faut. Et on ne met pas systématiquement du sulfite comme on ne va pas systématiquement prendre un antibio.
Donc a priori c'est plus compliqué, vous devriez faire payer ce vin beaucoup plus cher, parce que vous passez beaucoup plus de temps à l'élaboration, etc.
J'ai un caviste qui m'a dit tu vas nous les vendre moins cher tes vins sans sulfite puisque tu n'en mets pas. Non, il n'y a pas de véritable augmentation. On a
Non.
eu des petites augmentations par rapport au passage en bio qui sont surtout dues non pas aux pratiques mais surtout à la baisse de rendement puisqu'on n'utilise plus d'engrais azotés donc chimiques, donc automatiquement la plante se porte mieux, mais elle se porte mieux parce qu'elle réduit son alimentation. Après, moi j'ai une religion du vin aujourd'hui en dessous de 20 euros. En 2000, au passage de l'euro, je doutais que ce soit facile après 10 euros. Et beaucoup de collègues qui étaient en dessous de 100 francs pensaient que non, il n'y aurait pas de problème. Mais on a vite constaté qu'effectivement, il y avait une barrière et une limite à 9,50, 9,80, et que lorsqu'on arrive à 12, les ventes divisent par 2, puis à 14, sont redivisées encore par 2. Donc aujourd'hui, j'ai aucun vin au-dessus de 20 euros, et on se limite à des vins qui sont entre 12 et 14, 15, 16, 17 maximum TTC public chez des cavistes.
Ce qui veut dire que quand même il faut que vous gagniez votre vie, hein, c'est normal. Et combien d'hectares avez-vous globalement dans l'exploitation?
Ça varie un peu parce qu'on rachète, on arrache, on replante. En
Ouais.
général, une moyenne d'une trentaine d'hectares. On fait quelques achats de raisins, mais surtout, c'est le nombre de bouteilles qui est fixe. On fait environ 200 000 bouteilles par an. Mais bon, on ne vient pas en Languedoc pour faire fortune dans le vin.
Ah d'accord. Vous êtes venu pour autre chose alors.
Bah, c'est la passion, voilà,
Ouais.
c'est l'expérimentation,
Ouais.
le climat, le plaisir de travailler dans une région avec encore une certaine liberté. Et la liberté des espaces et la liberté des produits.
Par contre, les fabricants de Blanquette de Limoux, eux, ils sont sur la quantité de bouteilles, hein, plutôt.
Plus ou moins, le Limoux est en baisse constante, puisque Limoux revendique la paternité des plus vieux mousseux du monde, 1480. Quelque chose comme ça, ce qui est une grosse blague, puisqu'il n'y avait à l'époque ni verre ni bouchon qui résistait à la pression. Mais bon, c'est l'une des plus vieilles AOC d'effervescent, et aujourd'hui, c'est l'une des plus petites. Donc, cherchez l'erreur. Les plus gros aujourd'hui sont les Alsaciens qui sont arrivés en dernier.
Avec le crément.
Voilà, donc dans le monde des créments. Donc, il y a effectivement un problème à Limoux qui est dû, à mon avis, à la nature des produits, des cépages, au manque de dynamisme et à des blocages nombreux sur l'utilisation des cépages, sur des restrictions, législation, et puis sur une manque de dynamisme, sur une vision des producteurs qui se confinent à ce qui se faisait dans le passé.
Mmh. Au contraire de vous, quoi.
Donc je pense pas qu'ils sont débordés par les volumes, non, mais enfin il y a un problème de rentabilité certainement, oui, ça baisse au niveau des exploitants, au niveau des volumes produits, ouais. Et puis au niveau,
et
des,
quand même,
au niveau des marges, n'en parlons pas, quoi. Ouais.
Vous n'avez pas parlé, mais quand on est venu ici aussi, j'avais remarqué ce verre en amphore. Je ne vous en avais pas parlé là. Est-ce que vous continuez cette méthode de vieillissement du vin dans les amphores?
Alors oui, tout à fait. L'amphore, c'est la recherche d'une oxydation, mm-hmm. polymérisation des tanins, donc un assouplissement des tanins, donc un vieillissement des vins pour ne pas mettre en bouteille des vins trop durs, dans un contenant neutre qui ne va pas donner un goût de bois. On en a un peu marre, évidemment, de ce boisé qui était disparu en France dans les années 60, mais qui est apparu sous l'influence du Nouveau Monde, qui s'est mis à acheter des fûts neufs, et puis les producteurs français ont suivi. Et les petits malins, donc, au lieu de mettre le vin dans du bois, ont mis le bois dans le vin, etc. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de producteurs bio qui essaient de se démarquer avec des vins différents, sont sortis du bois, quoi. Et aujourd'hui, on recherche plus la pureté, l'expression du cépage, du lieu, que de l'infusion dans du chêne, qui est une autre variété végétale et qui vient d'une autre région. Alors, l'amphore permet justement cette lente maturation. C'est un contenant très intéressant. Alors, à noter que nos amphores viennent de l'Aude, tout près d'ici, sont des argiles de la région du seuil de Naurouse. Elles sont aussi utilisées par d'autres producteurs en Bourgogne, mais bon, c'est assez séduisant de mettre du vin fait ici dans des argiles qui viennent d'une trentaine, une cinquantaine de kilomètres.
Mais le volume de vin en amphore est quand même nettement inférieur à quand on traverse votre cave. Là, j'ai vu quelques amphores, mais j'ai vu surtout des fûts et des cuves.
Oui, tout à fait, c'est anecdotique. Alors les fûts, on en utilise encore beaucoup, mais très peu de bois neuf. J'utilise un petit peu de bois de 2 ans, donc des vins qu'on achète dans des grands crus, dans des châteaux bordelais, en deuxième année. Donc ils vont nous donner moins de boisé. Évidemment, un pinot noir ne supporterait pas une dose de bois neuf pareil. Enfin, en tout cas, pas pour mon goût ou mon style. Mais on travaille beaucoup avec des demi-muis, donc des 500 litres, qui vont boiser moins, puisqu'on va avoir moins de surface de bois au litre. Et puis, nos blancs, par exemple, sont faits dans des fûts demi-muis, 500 litres, de 5 à 20 ans. Donc, ils ne donnent plus vraiment de goût de bois. Mais là, on va plutôt travailler l'oxygène, c'est-à-dire les échanges avec l'air. Et donc, faire ce qu'est vraiment l'élevage, c'est-à-dire préparer le vin à son pire ennemi, qui est l'oxygène. Donc, petit à petit, on l'expose de façon modérée à l'oxygène. C'est ça l'élevage, et c'est pas du tout l'infusion boisée, l'aromatisation par du chêne torréfié, à mon sens.
J'avais une question un petit peu en dehors de ce qu'on discute actuellement, qui est liée à la première partie de l'émission, où l'œnologue vigneron souhaitait parler des porte-greffes. Donc, il a démarré sur les cépages la dernière fois et il a dit à la prochaine émission, j'aimerais parler des porte-greffes. Donc, j'ai une question de Béotien là-dessus. Que pensez-vous du choix des porte-greffes? Comment les choisir? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que vous le pratiquez? Je vous pose des questions toutes simples en relation avec ce que nous racontera Sébastien Almendros.
Moi, je ne suis pas un expert du sujet, mais c'est vrai qu'on a des questions à se poser vis-à-vis du réchauffement climatique. Et lorsqu'on plante une vigne aujourd'hui, qui est pour 40 ou 50 ans, au moins, la question est de savoir quoi planter. On nous annonce des canicules de 2 mois qui vont pas tarder à arriver, qui ne seront pas dans 40 ans, mais qui vont commencer probablement dans 2-3 ans. Là, mes interrogations se portent plus sur le cépage. Alors, le porte-greffe, évidemment, on y met des porte-greffes qui sont plutôt des porte-greffes plongeants, qui vont aller chercher l'eau là où elle est, en évitant ces porte-greffes du passé, porte-greffes traçants, c'est-à-dire qui vont avoir développé des racines en surface, là où il n'y aura pas d'eau. Mais c'est plutôt le choix du cépage qui m'interpelle. C'est pas dit qu'on pourra continuer de mettre raisonnablement des pinots noirs et des chardonnays, donc des cépages précoces du nord-est, dans les zones les plus chaudes du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, je me tournerai plutôt vers des cépages grecs, des cépages très tardifs, également vers le grenache, grenache gris, grenache blanc, qui est le cépage historique du Roussillon, et c'est certainement pas par hasard.
Monsieur Jean-Louis Denoy, on arrive au terme de cet entretien passionnant avec un homme passionné et avec, je dirais, une tirade qui vous est chère. Et ce qui serait bien pour conclure, c'est que vous nous disiez ce qui se cache derrière suivre mon étoile et guider le troupeau.
Alors quand j'ai arrêté de faire des vins avec le domaine de l'Aigle, sur lequel il y avait des aigles partout, sur l'étiquette, sur le carton, j'ai souhaité, sur ma nouvelle identité, qui est mon nom, ma marque, Jean-Louis Denoy, d'avoir retrouvé un animal. Alors j'ai pris mon signe du zodiaque, puisque je suis bélier, paraît-il ascendant bélier, et donc je l'ai décliné à toutes les sauces. Il a évolué, il s'est tourné vers la gauche, puis s'est retourné vers la droite, et là maintenant on est un petit peu stabilisé, avec un bélier qui regarde son étoile, et donc 80% de ma gamme, qu'on appelle la gamme bélier, le bélier regarde l'étoile, c'est-à-dire je considère qu'il y a encore une marge de progression. Ce sont des vins entre 10 à 14 euros, et on essaie de faire mieux, donc suivre mon étoile. Et une petite gamme qui sont véritablement mes grands crus, c'est la gamme étoile, où il y a une spirale, qui est ma spirale de vie en quelque sorte, et qui, dont la pointe touche l'étoile. Sur ces vins, j'ai touché mon étoile, c'est-à-dire que dans ce millésime donné, sur cette vigne donnée, en général des vignes d'un certain âge, je ne peux pas faire mieux, et j'ai réalisé un petit peu mon objectif. Donc ce sont mes grands crus qui, à noter, ne sont pas des grands crus à la naissance, une fois pour toutes, comme les crus de Bourgogne ou de Bordeaux, que vous allez payer beaucoup plus cher, même lorsque l'année n'est pas forcément fantastique. Je ne les classe que lorsque au mérite. Donc ce sont des grands crus au mérite. Par exemple, en Pinot Noir, le Grand Vin a été produit en 2019-2020, mais il n'y avait rien eu de fait depuis 2013. Quand c'est trop semblable aux autres cuvées, qu'il n'y a rien vraiment d'exceptionnel, ça reste dans la gamme Bélier. Alors suivre mon étoile, voilà. Ben, en dehors du troupeau, c'est ce qu'il y avait au début sur l'étiquette, on m'a convaincu de ne pas m'exclure, et donc j'ai remis guider le troupeau, mais bon, je n'ai pas la prétention de guider quoi que ce soit, et j'aime bien quand même en dehors du troupeau, puisque mes productions n'ont rien à voir avec ni la tradition, ni ce que continuent de faire aujourd'hui mes collègues, quoi. Donc, voilà.
Je pensais que c'était un petit peu une demande vis-à-vis des gens du coin, quoi. Hein. Je pensais qu'à un moment donné, le troupeau, vous parliez du troupeau local, quoi. Puisque vous avez été novateur dans l'exploitation du vin sur ces terres-là, et si ce n'était pas montré que vous étiez exemplaire pour ceux qui vous sont près de vous ici, quoi.
Oui, ben, c'est ça le troupeau. Oui. C'est les gens qui suivent, non pas des modes, mais qui suivent les injonctions parentales, qui suivent les traditions, même si elles ne sont pas bonnes et qu'on vous explique dans une étude de marché que c'est pas vers là qu'il faut aller, et qui continue à s'obstiner avec un cépage, un style de vin parfois démodé, et qui, contrairement au bélier, n'ose pas ruer dans les brancards et continue de faire la même chose de père en fils.
Très bien.
Mais voilà.
Très bien. Voilà. On vous remercie de nous avoir parlé avec